Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante concernant est-ce que Jésus est mort uniquement par les mains des Romains et des Juifs? C'est une question qui mérite d'être approfondie sérieusement. Nous arrivons donc à l'étude numéro 8 et c'est notre 31e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour nous faire mourir à la loi et porter du fruit pour Dieu. Il est dit en Romains chapitre 7 verset 4, « Vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Romains chapitre 7 verset 4. Quand Jésus-Christ mourut pour nous, nous sommes morts avec lui. Dieu a considéré tous ceux qui croient comme étant unis à Christ. Sa mort pour notre péché a été notre mort en lui. Voyez le CD précédent. Mais le péché n'est pas la seule réalité qui a causé la mort de Jésus et la nôtre. Il y a également la loi de Dieu. Lorsque nous transgressons la loi de Dieu en péchant, en commettant des péchés, elle nous condamne à mort. S'il n'y avait pas la loi, il n'y aurait pas de sanction. Donc, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, selon Romains chapitre 4, verset 15. Mais ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 19. Il n'y avait pas moyen d'échapper à la malédiction de la loi. Elle est juste et nous sommes coupables. La seule solution pour s'affranchir de cette malédiction, c'est qu'un autre subsiste, ou plutôt qu'un autre a dû subir la sanction correspondante. Et c'est pour cela, voyez-vous, que Jésus est venu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, est-il dit, étant devenu malédiction pour nous, selon Galates chapitre 3 verset 13. Ça vaut la peine de le répéter. Donc Christ, il nous a rachetés, vous et moi, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. La loi de Dieu, elle ne peut donc plus nous condamner si nous sommes en Christ. Son pouvoir sur nous a doublement été brisé. D'une part, Jésus-Christ a satisfait les exigences qu'elle nous imposait. Voyez-vous, sa parfaite obéissance, elle nous est imputée selon le CD numéro 1, 11, rappelez-vous, le verrez plus tard, le CD numéro 11. Donc, je dis encore une fois, sa parfaite obéissance, elle nous est imputée. Donc, d'autre part, Jésus-Christ a payé, il a payé de son propre sang le châtiment dont la loi nous a frappés. Et c'est pourquoi la Sainte Bible enseigne très clairement que le principe de la justification devant Dieu ne repose pas sur l'obéissance à la loi. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, selon Romains chapitre 3, verset 20. Ce n'est donc pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 16. Il n'y a pas moyen d'être en règle avec Dieu par l'observance de la loi. Je répète, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a donc pas moyen d'être en règle avec Dieu uniquement par l'observance de la loi. Le seul espoir réside dans le sang et la justice de Christ, que nous nous approprions, évidemment, par la foi seule. L'homme est donc justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, selon Romains, chapitre 3, verset 28. Voyez-vous, je vous cite les versets de la Sainte Bible pour que vous puissiez comprendre que je ne me permettrai pas de vous donner quelque chose de ma propre théologie ou de mes propres idées. Non, 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 c'est trop sérieux. Chers amis, comment plaire à Dieu si nous sommes morts à sa loi et si elle n'est plus notre maître? N'est-elle pas l'expression de sa volonté bonne et sainte? Romains chapitre 7, verset 12. La réponse de la Sainte Bible, elle est directe. Au lieu d'appartenir à la loi qui exige et qui condamne, eh bien nous appartenons désormais à Jésus-Christ qui lui exige et il donne. Autrefois, la justice exigée l'était extérieurement par des lettres écrites sur des tables de pierre, au temps de Moïse. Mais maintenant, la justice procède de l'intérieur, comme un soupir dans notre relation avec Jésus-Christ. Il est présent, Jésus, et il est une réalité. Alléluia. Par son Saint-Esprit, il nous aide dans notre faiblesse. Une personne vivante a donc remplacé un catalogue mortel. Et oui, car la lettre, elle tue. Mais l'Esprit vivifie. Alléluia. Notez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et notez aussi le CD numéro 14. C'est pourquoi la Sainte Bible décrit la nouvelle manière d'obéir comme étant la production d'un fruit et non pas seulement l'observance de la loi. Vous avez été par le corps de Jésus-Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains, chapitre 7, verset 4. Nous sommes donc morts à l'obéissance de la loi pour vivre en portant du fruit. Le fruit se développe tout naturellement sur l'arbre. Si l'arbre est bon, eh bien le fruit le sera aussi. Dans ce cas, L'arbre désigne la relation vivante et pleine d'amour avec Jésus-Christ. C'est donc pour cela que Jésus est mort, qu'il a dû mourir. Désormais, il nous invite à venir à lui, car Jésus dit, écoutez bien, faites-moi confiance, mourrez, soyez mort à la loi pour porter le fruit de l'amour. La 32e raison pourquoi Jésus devait mourir, Jésus doit mourir pour nous permettre de vivre pour Jésus-Christ et non pas uniquement pour nous-mêmes. Il est dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15, « Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 2 Corinthiens 5, verset 15. Le fait que Jésus-Christ soit mort pour exalter Christ, cela trouble beaucoup de gens. Et c'est pourtant ce que déclare 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Jésus-Christ est mort pour que nous vivions pour lui. Je répète, Jésus-Christ est mort pour que nous puissions vivre pour lui. Il est donc mort pour que nous fassions grand cas de sa personne. Alors notre refus de glorifier Dieu, cela illustre l'essence de notre péché. Or cela inclut de ne pas glorifier, oui, de ne pas du tout glorifier son Fils. Romains, chapitre 3, verset 23. Jésus-Christ est mort précisément pour porter ce péché et pour nous en libérer. Il est donc mort pour porter le déshonneur que notre péché faisait peser sur lui. Il mourut pour renverser la situation. Jésus-Christ mourut pour la gloire de Christ. C'est étonnant, mais vous allez comprendre. La raison qui plonge les gens dans la perplexité, c'est que ce raisonnement semble tiré par les cheveux. Cette conception de la mort de Jésus-Christ semble très égoïste. Il donne un peu l'impression de transformer les souffrances de Jésus-Christ en quelque chose de contraire à ce que la Sainte Bible déclare, c'est-à-dire un suprême acte d'amour. En réalité, les deux œuvres vont tout à fait de pair. La mort de Jésus-Christ pour sa propre gloire et pour nous, cela témoigne son amour. Son amour n'exprime pas seulement deux vérités, mais elle n'en forme qu'une seule. Donc Jésus-Christ, il est unique. Personne, oh non, personne, ne peut agir comme lui et affirmer qu'il agit par amour. Jésus-Christ est le seul être humain dans l'univers qui soit aussi Dieu et par conséquent de valeur infinie. Encore une fois, ça vaut la peine. Jésus-Christ, il est le seul être humain dans tout l'univers qui soit et qui représente également Dieu. Et par conséquent, il est de la valeur infinie. Il est infiniment beau dans toutes ses perfections morales. Il est infiniment sage, juste, bon et fort. Il est le reflet de la gloire de Dieu le Père et l'empreinte de sa personne. Hébreux chapitre 1, verset 3. Le voir et le connaître est préférable à tout ce que la terre peut offrir. Un homme qu'il a bien connu s'exprime ainsi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ. Philippe, chapitre 3, versets 7 et 8. Nous avons compris qu'il s'agit de l'apôtre Paul qui nous dit cela. Les mots. Jésus-Christ est mort pour que nous vivions pour lui. Cela ne signifie pas qu'il est mort pour que nous puissions l'aider en quelque sorte. Dieu n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Notez Actes, chapitre 17, verset 25. Jésus-Christ n'a pas besoin non plus d'être servi. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Saint Marc, chapitre 10, verset 45. Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous lui venions en aide, mais pour que nous le contemplions et apprécions sa valeur infinie. Jésus-Christ est donc mort pour nous, pour nous enthousiasmer par les délices de sa beauté. C'est ainsi que nous sommes aimés et qu'il est honoré. Ce ne sont pas deux objectifs rivaux. Ils se confondent en un seul. Jésus explique, il a expliqué à ses disciples qu'il devait s'en aller pour pouvoir leur envoyer le Saint-Esprit qui les aiderait. Saint Jean chapitre 16, verset 7. Il indiqua ce que l'Esprit Saint ferait lors de sa venue. Il me glorifiera. Saint Jean chapitre 16, verset 14. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que nous le voyions et que nous le célébrions. C'est donc en cela que réside notre plus grand secours. C'est de l'amour authentique tout cela. La prière la plus empreinte d'amour que Jésus a formulée, elle était celle-ci. Père, ô mon Père, Papa, je veux que là où je suis, que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Johannes, Saint Jean, chapitre 17, verset 24, je répète. La prière la plus empreinte d'amour que Jésus a formulée fut celle-ci. Il a dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Saint Jean, chapitre 17, verset 24. C'est pour cela qu'il est mort. L'essence de l'amour tient en ce qu'il souffre, Jésus, pour nous procurer des délices éternels, c'est-à-dire la contemplation de sa personne. La 33e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour faire de sa croix notre sujet de fierté. L'apôtre Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates, chapitre 6, verset 14. Cela paraît exagéré. Se glorifier de la croix? Vraiment? Rien d'autre? Point d'interrogation? C'est vraiment un point d'interrogation. Voyez-vous, même la Sainte Bible, elle nous exhorte à nous glorifier d'autres choses. Nous devons nous glorifier de la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, verset 2. De notre tribulation. Romains chapitre 5, verset 3. De nos faiblesses. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Du peuple de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Que signifie alors l'expression « d'autres choses que » Fragezeichen, point d'interrogation. Eh bien, cela signifie que tous les autres sujets de gloire reviennent à se glorifier de la croix. Si nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire, le vrai sujet de notre gloire devait être uniquement la croix de Christ. Je répète, si nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire, le vrai sujet de notre gloire devrait être uniquement la croix de Christ. Quand nous nous glorifions du peuple de Dieu, cette fierté doit reposer sur la croix. Se glorifier uniquement de la croix, cela signifie qu'elle seule permet d'alimenter toute autre raison légitime de gloire. Par conséquent, tout sujet de fierté légitime devrait honorer la croix. Pourquoi ? Warum ? Pourquoi ? Parce que c'est la croix de Jésus-Christ qui nous a acquis toutes choses bonnes, et même les choses mauvaises, oh oui, les choses mauvaises que Dieu peut utiliser pour notre bien. En dehors de la foi en Jésus-Christ, les pécheurs, c'est-à-dire les non-sauvés, ne récoltent que le jugement. Il est vrai que les incroyants jouissent de nombreuses choses agréables, mais la Sainte Bible, elle déclare que ces bienfaits naturels de la vie ne font finalement que augmenter la sévérité du jugement divin, surtout si on ne les reçoit pas avec gratitude sur la base des souffrances de Jésus-Christ. Romains chapitre 2, versets 4 et 5. C'est pourquoi nous qui croyons en lui, nous devons à la mort de Jésus-Christ tout ce dont nous jouissons. Nous lui devons absolument tout. Ses souffrances ont donc absorbé tout le jugement que des pécheurs coupables méritaient et procurent, écoutez bien, toutes les bonnes choses dont les pécheurs pardonnés bénéficient. Je répète, parce que c'est important. Pardon. Ces souffrances de Jésus ont absorbé tout le jugement que des pécheurs coupables comme moi ont mérité et procure, écoutez bien, toutes les bonnes choses dont les pécheurs comme moi, pardonnés, peuvent maintenant bénéficier. La gloire que nous plaçons dans ces biens devrait glorifier la croix de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas aussi centrés sur Jésus-Christ et aussi portés vers la croix que nous le devrions, parce que nous ne méritons pas assez la vérité que les souffrances de Jésus-Christ nous ont acquis toutes bonnes choses et toutes choses mauvaises que Dieu peut changer en bien pour nous. Alors, comment devenir à ce point centré sur la croix? En prenant davantage conscience que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Quand cette vérité éclata aux yeux de l'apôtre Paul, il a pu dire « Le monde est crucifié pour moi, comme je suis crucifié pour le monde. » Galates chapitre 6, verset 14. Telle est donc la clé d'une fierté qui est centrée sur Jésus-Christ et sur sa croix. La confiance qu'on place en Jésus-Christ brise l'attrait démesuré qu'exerce le monde. Nous devenons comme un cadavre pour lui, et il devient pour nous. Oui, il le devient pour nous. En des termes très différents, nous sommes donc une nouvelle création maintenant. Selon Galates chapitre 6, verset 15, l'ancien être que nous étions, l'être de Adam, est mort. Schluss, fertig. Une nouvelle vie, un nouveau vie maintenant, c'est qui? Eh bien, ce nouveau, c'est l'être qui croit maintenant en Jésus-Christ. C'est toi qui écoutes maintenant. Cette foi, elle se caractérise en ce qu'elle valorise Jésus par-dessus tout. Le pouvoir du monde a vous aguiché. Ce pouvoir est maintenant mort. Merci Seigneur. Celui qui est mort au monde voit dans tout plaisir légitime que offre le monde une preuve de l'amour de Jésus-Christ marqué par son sang précieux et une occasion de se glorifier de la croix. Quand notre cœur remonte le cours d'eau des bienfaits de Dieu pour arriver à sa source que représente la croix, eh bien l'aspect humain et mondain du plaisir disparaît totalement, et Jésus-Christ crucifié, il devient maintenant absolument tout pour nous. La 34e raison pourquoi Jésus devait mourir, Jésus doit mourir pour nous rendre capables de vivre par la foi en lui. L'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Ce verset présente un paradoxe évident. J'ai été crucifié, mais je vis maintenant. D'abord, je suis mort avec Jésus-Christ. Ensuite, j'ai été ressuscité avec lui, et maintenant je vis. Ça, c'est exact. Mais que dire de ces paroles encore plus paradoxales, qui disent « Ce n'est donc plus moi qui vis, et je vis maintenant, vraiment. Est-ce que je vis, oui ou non ?» Les paradoxes ne sont donc pas des contradictions, non, non, non. Ils en ont simplement l'air. Par exemple, l'apôtre Paul déclare qu'un « je » est mort et qu'un autre « je » vit maintenant. Devenir chrétien est précisément cela. L'ancien être meurt, un nouvel être est créé ou ressuscité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Ça vaut la peine de répéter cela, parce que c'est important. L'apôtre Paul a déclaré qu'un « je » est mort et qu'un autre « je » vit maintenant. Devenir chrétien, c'est donc cela. L'ancien être meurt, un nouvel être est créé et ressuscité. Si quelqu'un est en Christ, il est tout simplement une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens chapitre 2, verset 5 et 6. La mort de Jésus-Christ avait donc pour but d'emporter notre ancien être avec lui dans la tombe et d'y mettre fin. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Romains chapitre 6, verset 6. Si nous nous confions en Jésus-Christ, nous sommes donc unis à lui. Dieu considère alors que notre vieille nature est morte avec Jésus-Christ. Le but était donc de créer un être tout nouveau. Mes chers amis, qui est finalement cet être nouveau? Quel est la différence entre les deux êtres? Suis-je encore moi-même? Eh bien, le verset rappelé au début de ce CD, ce verset décrit l'être nouveau de deux manières. Le premier est pratiquement inimaginable et l'autre est très clair. L'apôtre Paul déclare que le nouvel être n'est autre que Jésus-Christ qui vit maintenant en moi. Et j'ajoute par le Saint-Esprit. Ce n'est donc plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Je répète, l'apôtre Paul déclare que le nouvel être n'est autre que Jésus-Christ qui vit en moi. Ce n'est donc plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Cela signifie que la nouvelle nature s'est définie par la présence et par l'assistance de Jésus-Christ en tout temps. Jésus-Christ me communique la vie en permanence. Il me fortifie constamment pour accomplir l'œuvre qu'il me confie. C'est pourquoi la Sainte Bible dit « je peux tout par Jésus-Christ, par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens chapitre 1, verset 29. Et c'est pourquoi, tout compte fait, l'être nouveau déclare, je n'oserais pas mentionner aucune chose que Jésus-Christ n'ait pas fait par moi. Romains chapitre 15, verset 18. Tel est donc le premier portrait que Galates chapitre 2, verset 20 brosse du nouvel être. Un être habité et soutenu et fortifié par Jésus-Christ. Je répète, tel est le premier portrait que Galates 2, verset 20 brosse du nouvel être. C'est un être qui est maintenant habité, qui est maintenant soutenu et fortifié par Jésus-Christ. C'est pour arriver à ce résultat-là que Jésus-Christ est mort, qu'il a dû mourir. Tel est donc le chrétien. L'autre portrait de l'être nouveau, c'est celui d'un être qui vit à chaque instant en s'appuyant uniquement sur Jésus-Christ. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Sans cette deuxième description de l'être nouveau, nous pourrions nous demander quel est notre rôle dans l'expérience de l'assistance quotidienne que Jésus-Christ nous porte. Nous en avons désormais la réponse, c'est la foi. Du point de vue divin, Jésus-Christ vit en nous et il nous rend capables de vivre comme il nous a enseigné. Ça, c'est son œuvre. De notre point de vue, c'est faire l'expérience par la foi de sa présence et de son aide à chaque instant de notre vie. Le fait qu'il a souffert et qu'il est mort dans ce but-là, ça, c'est bel et bien la preuve qu'il sera avec nous et qu'il nous aidera. Le croyez-vous, oui ou non ? Et la 35e raison pourquoi Jésus devait mourir, Jésus doit mourir pour conférer au mariage son sens le plus profond. Seigneur, j'ai pensé que je ne pourrais jamais faire cette étude, car la voix ne fonctionnait pas du tout. Tu as fait fonctionner cette voix comme autrefois, malgré que j'ai presque 92 ans. Très bientôt. Eh bien, je reconnais que c'est un miracle que tu as permis que ma voix puisse être audible et compréhensible. Seigneur, aide-moi à terminer cette partie. Je t'en prie. Merci de ton aide. Donc, nous avons dit que Jésus doit mourir pour conférer au mariage son sens le plus profond. Notez Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il est dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Oh, aujourd'hui, avec la laïcité, avec les mariages homosexuels, lesbiens, avec tout cela, je crois que on va directement dans le mur. J'en suis même certain. Mais il y en a beaucoup qui ne voient pas cela. Ils ne le voient pas. Tout simplement parce que Satan leur a ébloui les yeux, a rendu les yeux opaques pour qu'ils ne voient pas. C'est aussi simple que ça. La Sainte Bible présente le dessein divin pour le mariage en exhortant le mari à aimer sa femme comme Jésus-Christ aime l'Église, et l'épouse à se conduire vis-à-vis de son mari comme l'Église le devrait à l'égard de Jésus-Christ. Dieu le Père avait donc ce tableau à l'esprit quand il a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Le Seigneur est venu pour son épouse. Il est mort pour elle afin de manifester ce que doit être le mariage. Le point important de l'analogie ne réside pas dans la nécessité pour le mari de souffrir aux mains de son épouse. Il est vrai que dans un sens, cela s'est produit dans le cas de Jésus. Il a souffert pour amener un peuple, c'est-à-dire une épouse, à l'existence. Et ce peuple faisait partie de ceux qui l'ont fait souffrir. N'oublions pas qu'une grande partie de sa tristesse a été provoquée par l'abandon et par la fuite de ses disciples. Notez Matthéus, chapitre 26, verset 56. Si j'avais aussi fait cela, j'aurais été très malheureux, et croyez-moi, j'aurais été très, très, pas seulement malheureux, j'aurais eu honte. Mais il est possible que peut-être j'aurais pas fait mieux. Va savoir. C'est pour ça, faisons attention avant de juger. Oui, l'analogie, elle souligne principalement l'ampleur de l'amour dont Jésus a aimé les siens. Il les a aimés jusqu'à la mort, et il ne les a pas rejetés, mais il les a du reste jamais rejetés. Le dessein divin quant au mariage a précédé l'union d'Adam et d'Ève, ainsi que la venue de Jésus-Christ. Nous le savons parce que, en expliquant le mystère du mariage, l'apôtre de Jésus-Christ remonte aux premières pages de la Sainte Bible et il cite la Genèse chapitre 2 verset 24, où il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il n'est pas dit que l'homme va se mettre avec un homme et la femme avec une femme. Dans le verset suivant, il interprète ce qu'il vient d'écrire. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Jésus-Christ et à l'Église. Éphésiens chapitre 5, versets 31 et 32. Bien sûr, aujourd'hui, si vous dites cela, on va tout de suite vous attaquer, si possible même mettre les fers aux pieds et puis en prison, va savoir au travail, aux travaux forcés, parce que, tout simplement, aujourd'hui, tout est contraire à la parole de Dieu. Donc, cela signifie, chers amis, que dans la pensée de Dieu notre Père, le mariage était destiné, au commencement, à démontrer le type de relation qui unirait Jésus-Christ à son peuple. Le mariage est appelé un mystère. Pourquoi ? Parce que sa finalité n'était pas clairement révélée dans la venue de Jésus-Christ. Nous voyons désormais qu'il a pour but de rendre plus visible pour le monde l'amour de Jésus-Christ pour les siens. Puisque ce projet était dans la pensée de Dieu notre Père, et cela dès le commencement, il était aussi dans la pensée de Jésus-Christ au moment où il a affronté la mort. Jésus savait que parmi les nombreuses conséquences de ses souffrances figurait la mise en pleine lumière du sens profond du mariage. La souffrance du Seigneur véhicule un message particulier à tous les maris en leur indiquant comment chacun doit aimer sa femme. L'intention initiale de Dieu, ce n'était pas que les époux soient malheureux. Hélas, beaucoup le sont malheureusement. C'est donc là une des conséquences du péché. À cause du péché, lui, mari et femme, agissent mal l'un envers l'autre. Jésus-Christ a souffert et il est mort pour changer toute cette situation. L'épouse porte certes une responsabilité dans ce changement, mais le Seigneur, il confère une responsabilité particulière au mari. C'est pourquoi la Sainte Bible exhorte, elle dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Le mari ne doit évidemment pas se prendre pour Jésus-Christ, mais il est appelé à lui ressembler. Il le fait en acceptant de souffrir pour le bien de son épouse sans jamais la menacer ni de abuser d'elle. Il peut souffrir en la protégeant de toute force extérieure qui pourrait lui nuire, mais aussi en acceptant les déceptions et même les abus qu'elle pourrait peut-être lui faire subir. Ce type d'amour est possible parce que Jésus-Christ est mort aussi bien pour le mari que pour son épouse. Leurs péchés sont maintenant pardonnés. Aucun des deux n'a donc besoin de faire souffrir l'autre pour ses péchés. Jésus-Christ, c'est lui qui a porté cette souffrance et désormais, en tant que deux êtres pécheurs pardonnés, nous pouvons rendre le bien pour le mal. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons terminer et j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose d'intéressant que le Seigneur m'a donné pour vous encourager d'une part et puis d'autre part pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. De la corruption de la nature et de l'efficacité de la grâce divine. Seigneur mon Dieu, toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance, accorde-moi cette grâce dont tu m'as montré l'excellence et la nécessité pour le salut, afin que je puisse vaincre ma nature corrompue qui m'entraîne au péché et dans la perdition. Car je sens en ma chair la loi du péché qui contredit la loi de l'esprit et m'a servi au sens pour que je leur obéisse en esclave et je ne puis résister aux passions qu'ils soulèvent en moi. Si toi, tu ne me secours pas en ranimant mon cœur par l'effusion de ta sainte grâce. Ta grâce est une grâce très grande. Elle est nécessaire pour vaincre la nature qui est malheureusement inclinée au mal dès l'enfance. Car déchu en Adam, notre premier père, et dépravé par le péché, cette tache passe dans tous les hommes et ils en portent la peine, de sorte que cette nature même que tu avais créée dans la justice et dans la droiture ne rappelle plus que la faiblesse et le dérèglement d'une nature corrompue, parce que laissée à elle-même, son propre mouvement ne la porte que au mal et vers les choses de la terre. Le peu de force que lui est resté est comme une étincelle cachée dans la cendre. C'est cette raison naturelle, environnée de profondes ténèbres, sachant encore heureusement discerner le bien du mal, le vrai du faux, mais impuissante à accomplir ce qu'elle approuve, parce qu'elle ne possède pas la pleine lumière, la lumière de la vérité, et que toutes ses affections sont malades. Et c'est de là qui vient, mon Dieu, que je me réjouis en ta loi selon l'homme intérieur, reconnaissant que tes commandements sont bons, justes et saints, qu'ils condamnent tout mal et détournent du péché. Mais dans ma chair, je suis asservi à la loi du péché, obéissant plutôt au sens qu'à la raison, voulant le bien et n'ayant pas la force de l'accomplir. C'est pourquoi souvent je forme de bonnes résolutions, mais si la grâce qui aide à ma faiblesse venait à manquer au moindre obstacle, je céderai et je tomberai. Et je découvre maintenant la voie de la perfection, et je vois clairement ce que je dois faire. Mais accablé du poids de ma corruption, je ne m'élève en rien de parfait. Oh, que ta grâce, Seigneur, m'est nécessaire pour commencer le bien, le continuer et de l'achever. Car sans elle, je ne puis rien faire. Mais je puis tout en toi quand ta grâce me fortifie. Ô grâce vraiment céleste, sans laquelle nos mérites et les dons de la nature ne sont rien. Les arts, les richesses, la beauté, la force, le génie, l'éloquence, ils n'ont aucun prix, Seigneur, à tes yeux, sans la grâce. Car les dons de la nature sont communs aux bons ainsi qu'aux méchants, mais la grâce ou la charité, c'est le don propre aux élus uniquement. Elle est le signe auquel on reconnaît tous ceux qui sont dignes de la vie éternelle. Telle est l'excellence de cette grâce qui nie le don de prophétie, ni le pouvoir d'opérer des miracles, ni la plus haute contemplation ne doivent être comptées pour quelque chose sans elle. Ni la foi même, ni l'espérance, ni les autres vertus ne te sont agréables sans la grâce et la charité. Ô bienheureuse grâce, qui rend riche en vertu le pauvre d'esprit, et celui qui possède de grands biens, humble de cœur. Viens, descends en moi, remplis-moi dès le matin, remplis-moi de ta consolation, de peur que mon âme épuisée, aride, ne vienne à défaillir de lassitude. J'implore ta grâce, ô mon Dieu, je ne veux que elle, car ta grâce me suffit, même quand je n'obtiendrai rien de ce que la nature désire. Si je suis éprouvé, tourmenté par beaucoup de tribulations, je ne craindrai aucun mot, tandis que ta grâce sera avec moi. Elle est ma force, elle est mon conseil et mon appui. Elle est plus puissante que tous les ennemis et plus sage que tous les sages. Elle enseigne la vérité et règle la conduite. Elle est la lumière du cœur et sa consolation dans l'angoisse. Elle chasse la tristesse, elle dissipe la crainte et elle nourrit la piété et elle produit les larmes. Que suis-je sans elle? Qu'un bois sec? Oui, un rameau stérile qui n'est bon que à être jeté. Que ta grâce, Seigneur mon Père, me prévienne donc et m'accompagne toujours, qu'elle me rend sans cesse attentif à la pratique des bonnes œuvres. Je t'en conjure par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Prions. Éternel Dieu, tu es la source manifeste de la vérité et tu fais couler ces ruisseaux de ta vérité à travers notre monde. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour cette révélation. Accorde-nous, oui, accorde-nous de savoir, de bien la comprendre, comme les premiers disciples du Christ, pour qu'elle mette fin dans nos cœurs à toute foi de convention et aux préjugés humains. Préserve-nous de fixer notre pensée avec le peuple du Christ Sauveur sur un simple commencement. Préserve-nous de nous arrêter à une simple étape de ta révélation, que nous ne demeurions pas figés dans ce qui est périmé, étranger à l'évangile de ton Fils et dépassé par le glorieux épanouissement de ton royaume. Remplis-nous de la merveilleuse assurance que ta révélation est une révélation vivante et que ton Saint-Esprit veut nous conduire sans arrêt de vérité en vérité, de délivrance en délivrance, de certitude en certitude et de grâce en grâce à jamais. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu aime tous ceux qui ont été assez humbles de reconnaître. Ah, c'est difficile de reconnaître. De reconnaître que nous étions des pécheurs perdus, perdus pour l'éternité, et que nous avions besoin d'accepter la main tendue que offrait Jésus-Christ pour nous sauver. Et donc, tous ceux qui sont sauvés, Dieu les aime. Ce qui veut dire, Dieu vous aime. Et il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, là où vous êtes, auprès, au loin, je vous enlace tous et je vous embrasse avec tout mon amour. Et je vous dis oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais vous mettre un ou deux chants un lointain passé. C'était en 1960 que j'ai enregistré cela avec un appareil à bande qui s'appelle le Revox, parfois aussi le Nagra de Kudelski. Mais avec les années, et il y a là des années, il fallait donc transmettre d'abord sur des cassettes, ensuite maintenant sur des CD. Tout cela a perdu beaucoup de sa netteté, mais le Saint-Esprit s'y trouve, ça c'est certain. Et je m'excuse s'il y a des ratés, je m'excuse si parfois c'est pas tout à fait très audible, mais je pense que vous comprenez qu'il y a fort longtemps de cela. J'étais un jeune homme quand j'avais enregistré cela. Pensez donc. J'ai maintenant 92 ans. Mes chers amis, à bientôt. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Ce sera l'étude numéro 9. Et ce sera la 36e raison pourquoi Jésus devait mourir. Mais maintenant, essayons si ça fonctionne. Espérons.
Sans éclat libre. beauté. Il n'avait rien pour plaire, rien de très attirant. Il était trop simple, pas reconnu des grands.
Il ne brise pas le roseau croisé.
Pour nous donner la vie.
Il ne brise pas le roseau croisé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Il panse les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au port.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra.
Pour toi.
Je sais qu'il reviendra.
Pour moi.
Je sais qu'il reviendra.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra. Il l'a promis, oui, je le crois.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra.
Pour toi.
Je sais qu'il reviendra.
Pour moi.
Je sais qu'il reviendra.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra. Il l'a promis, oui, je le crois.
Depuis 2000 ans,
2000 ans,
en tout pays, le monde attend,
il attend
sa parousie.
Le ciel, la terre, le soleil et la mer, la création attend ce moment.
Depuis 2000 ans,
2000 ans,
en tout pays, le monde attend,
il attend sa parousie.
Le ciel, la terre, le soleil et la mer. La création attend ce moment.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra.
Pour toi.
Je sais qu'il reviendra.
Pour moi.
Je sais qu'il reviendra.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra. Il l'a promis, oui, je le crois.
quand viendra-t-on
le temps
de son retour,
nous
irons chantant vers le grand jour,
le jour J de son avènement, pour nous le plus grand événement.
Quand viendra-t-on
le temps
de son retour,
nous
irons chantant
vers
le grand jour,
le jour J de son avènement.
C'est tout qu'un jour le Seigneur reviendra. Pour toi, pour moi.
C'est
tout qu'un jour le Seigneur reviendra.
Seras-tu prêt ce jour-là? Ce jour-là.
Il reviendra, pour moi, Jésus est le roi des rois.